lui. Il fait beau. Je ne vais pas à la pêche. Je vais embrasser les arbres. J'aime embrasser les arbres. Je n'aime pas embrasser n'importe quel arbre. Il me faut d'abord choisir l'arbre que je vais embrasser. C'est trop dire. Le plus souvent, c'est l'arbre qui me choisit. Cependant, je me suis entouré de professeurs, de maîtres, d'enseignants, de connaisseurs. Spécialiste. Jean-François Clémence, Dominique Mention, Anneke Prasinha.
Stond ze stil, bond de schaatsen zich onder, zij de gouden regen zelf. Een bui, bijzondere weelde van waterverplaatsing. Zo'n stromen, vloeien, verwaaien zelfs, dalen en zinken, zag zich op een vijver gaan, schaatste. Onder de bomen aan de kant werd het kalm en vol bewening. Zonder regen die te bloeien hing. Vochtig de lucht, vochtig de grond. Verzadigd van goud in de zon.
Au soleil.
Au soleil, oui. Et il y a un étang là-bas, et dans mon poème aussi il y a un étang. Et... Ça m'a fait penser à ce poème.
Oui. Nous voilà seuls. Messieurs Clémence et Mention nous ont laissés au pied d'un châtaignier, donc, dont ils se demandaient il y a quelques instants s'il avait été greffé. Nous allons donc attendre une petite minute, les voilà qui arrivent, et leur demander... À quelle réflexion ils ont abouti. Alors, messieurs, dites-moi, ce châtaignier est-il, oui ou non, greffé ?
apparemment, il ne serait pas greffé. Quand les châtaigniers sont greffés pour reproduire les bonnes variétés, ce qu'on appelle aujourd'hui les marrons, on a la trace de la coupe initiale ou de l'entaille initiale qui a permis de poser ce greffon qui maintient l'espèce, la variété que l'on veut. Et sur celui-là, on ne voit pas de trace.
On ne voit pas de trace. De...
Donc c'est tout à fait possible qu'il n'ait pas été greffé.
Et il y a quand même quelque chose d'assez curieux dans cet arbre, c'est qu'il y a donc un tronc assez costaud, enfin quelque chose qui doit faire
ancien.
Oui, très ancien et très gros et un peu tortueux, même très nettement tortueux. Et puis nous avons là sur la gauche, partant à peu près en bas, pas à la souche mais presque, un mètre au-dessus, une branche qui elle va droit, très droit, sans être absolument tordu. Alors, est-ce que l'un ou l'autre peut m'expliquer pourquoi, disons, le bras de cet arbre n'est pas tordu alors que tout le reste est tordu ?
Ben oui, c'est pas trop difficile à expliquer. Le châtaignier, comme beaucoup de feuillus, a une capacité, ce qu'on appelle, à rejeter de souche. Alors le mot rejeter de souche est souvent un peu impropre parce que la souche, c'est un arbre... On peut la situer à une certaine hauteur. Et ici, on voit bien qu'il a rejeté à partir de 2 mètres du sol. Mmh. Et ce brin qui a été dominé par les rameaux existants du tronc ancien, eh bien, il a été gainé comme font nos forestiers en forêt de Bercé. Hein, il gaine la chaîne pour pas qu'il pousse latéralement. Eh bien, il a poussé très droit pour aller chercher la lumière plus haut. D'où cette... cette branche,
cette allure
ce tronc léger ligne
qui est
plus jeune parce qu'il n'est pas crevassé comme le tronc plus ancien, mais qui va se crevasser à son tour en vieillissant. Uh-huh. Et le fameux châtaignier de l'Etna qui est là-bas en Italie, qui serait un des plus vieux du monde, qui fait 56 mètres de circonférence, quelque chose d'énorme, en fait l'arbre il n'a plus rien de sa vie initiale, il n'y a plus rien. Tout ce qui pousse, ce sont des rejets au fur et à mesure sur des bourgeons qui avancent, qui se prolongent en couronne tout autour du pied initial.
Mais c'est le même arbre. C'est l'arbre d'origine qui survit.
Et donc, je n'ai pas du tout à m'intriguer de la forme que prennent les branches de l'arbre initial. Où moi, je vois un dessin de torsion, fait tout en torsion, comme très souvent d'ailleurs chez les châtaigniers, et dont j'ai cru un moment que c'était lié à des conditions de vie difficiles, que sais-je encore, ou parce qu'ils avaient été trop coupés, que sais-je encore.
Oh, celui-là, il n'a sûrement jamais été coupé, donc c'est pas cette question-là. Et...
C'est la forme
c'est
de
dans
du châtaignier.
C'est l'évolution naturelle. Oui,
voilà,
oui,
c'est ça. Il a ce côté un peu tourmenté, quoi, pour le moins, qu'on puisse dire.
Son inclinaison naturelle, ce que disait Dominique tout à l'heure, laisse penser que la concurrence qu'il avait sur notre gauche, qui était un peuplement forestier, avec des grands arbres qui étaient des chênes et des hêtres, l'a obligé à aller chercher sa lumière côté jardin, puisqu'il avait de la lumière de ce côté-là. De l'autre, il n'en avait pas. Ensuite, le peuplement a disparu et la branche en a profité pour monter, chercher sa lumière tout droit parce qu'elle n'avait plus l'obligation d'aller la chercher, hein, de négocier la lumière. Hein, toujours négocier la lumière, aller la chercher. Parce que c'est indispensable à la vie. Donc, je pense que l'histoire, on peut la lire. L'arbre se lit comme un livre. On lit l'écorce qui est la couverture, on lit le bois qui est le contenu, on lit les accidents, on lit tout est. C'est un livre, un véritable livre.
Et cette technique de faire ses rejets, c'est une stratégie de survie. C'est-à-dire que plus l'arbre grandit, plus il vieillit, plus il va falloir monter la sèvre haut dans les branches. Donc il y a une énergie nécessaire à cela. Et à un moment, l'arbre fatigue et il va vers une sénescence naturelle. Par contre, s'il se raccourcit de lui-même, il remet des rejets, il va réduire cette distance de montée, donc il va retrouver une jeunesse. En plus, il va être moins sensible à l'orage, moins sensible au vent, etc. Donc, en fait, c'est des stratégies pour vivre le plus longtemps possible.
Pour continuer la lecture, on le voit très bien. Hein, la cime de l'arbre est en train de mourir, est morte d'ailleurs. Hein, jusqu'à, il y a une bonne dizaine de mètres qui sont morts. On passe, on dit cet arbre est en train de mourir. Peut-être que dans un siècle, il sera encore là en train de mourir. Et en fait, il a recommencé, il a réitéré du bas et puis il est reparti. Ça cassera, ça finira par casser en haut. Hein, et puis il se passera ce qui se passera, mais peut-être que dans un siècle, il sera encore là. Hein, il n'y a pas de souci. Alors d'abord, pourquoi est-il là? Parce que sont des arbres châtaigniers dans le Maine avaient une importance économique capitale. Hein, on en faisait un tas de choses. Alors, pourquoi greffer, a dit Dominique tout à l'heure, parce qu'on les greffait, on les surgreffait, comme disent les gars d'ici, pour dire des marrons. Alors, le marron du Maine, c'est absolument pas un marron d'Inde, c'est une grosse châtaigne. Parce que, avec ces grosses châtaignes, on faisait tout.
Et l'arbre à pain, le fameux arbre
oui,
à
voilà,
pain.
Oui, voilà, c'est ça. C'était avant la pomme de terre.
Complètement, complètement. Et partout en France, absolument partout, on a pu implanter du châtaignier, ouais. Greffer du châtaignier, on avait du châtaignier. Vous allez en Sologne, vous allez en Provence. Le châtaignier, il est calcifuge. Donc, dès qu'il y a du calcaire, ça fonctionne pas. Mais dès qu'on a des sols décalcifiés, où le calcaire a disparu, le châtaignier, on l'a installé. C'est-à-dire, c'est là encore, on parlait tout à l'heure de survie, de stratégie. On est pour l'arbre, en tant que châtaignier, c'était des stratégies de survie pour les gens, pour manger, pour ne pas crever de faim. Parce que la châtaigne, on savait la conserver, on la faisait chauffer, brûler à petit feu, etc. Il y avait tout un savoir et une attention extraordinaire. Et puis, toutes ces utilisations du bois, on couvrait les maisons avec, on cerclait les tonneaux, c'était inouï.
On en
inouï.
Faisait même des tonneaux.
Inouï.
On faisait des meubles fendus, c'est une utilisation, c'est...
Qu'est-ce que c'est qu'un meuble fendu?
On fendait il y a encore d'ailleurs une tradition dans le Limousin, un petit peu en dessous de Limoges, où ils font, sur des rejets de châtaigniers jeunes, ils les fendent et ils font du fauteuil. Du feuillard de châtaignier avec lesquels ils font du meuble. On a l'habitude de voir des meubles en bambou venus de Dieu sait où. Il y a dans le Limousin des gens qui fabriquent ce genre de meubles avec des feuillards de châtaignier. Il n'y a pas besoin d'aller en Chine.
Ni au Japon. On faisait des paniers avec.
Des peniers. Des armatures de peniers. Mmh. C'était... Hein, et puis des pots, des pieux pour les clôtures, avec les rejets, du parquet, de la charpente, des meubles. Les Bretons appellent ça le chêne du pauvre. Hein, on faisait d'extraordinaires meubles en châtaignier. C'est une utilisation complètement incroyable.
Ce qui est fascinant, c'est que l'arbre est universel dans ses emplois, de même qu'il est capable de supporter, entre guillemets, toutes les... façonnage. Là, on le voit en grand arbre, il peut être greffé, il peut être travaillé en trogne, il peut être plessé, il peut être conduit en haie basse, il peut être conduit en taillis, formidable pour faire des piquets ou des perches ou des poteaux de mine. C'est-à-dire qu'il a une plasticité fabuleuse, génie végétal, génie humain, là, qui sont encore associés pour faire de cet arbre une ressource incroyable.
Il travaille très peu, le chêne travaille en bois de travail. Meuble, mais le châtaignier quasiment.
Réputé ne pas prendre l'araignée dans la charpente. Ouais. Il y a tout un tas de...
Ça servait pour le tanin. L'écorce était très utilisée.
Ouais, semblerait que les Romains ne soient pas étrangers à son expansion. Hein. Il ait suivi la conquête romaine.
Qu'en pensez-vous, Anneke? Ne voilà-t-il pas un arbre essentiel, un arbre...
Et extrêmement lisible.
Ah, oui, ah ça, ouais. Il est évident qu'un écrivain ne peut être que sensible à cette métaphore.
Alors pour couronner le tout, nos vieux châtaigniers des châtaigneraies, notamment de la Sarthe, se creusent, contiennent du terreau. Et au cœur de ce terreau, on trouve des insectes rares, comme le pic-prune. Donc c'est-à-dire qu'en vieillissant, on voit des cavités. Hein. Mm-hmm. Il va accueillir le chouca des tours, la chouette hulotte, les insectes, des chauves-souris. Il devient en plus un écosystème. Donc
c'est un monde.
C'est un monde. C'est un monde. Et...
Tranquille, lassant les patins dessous l'arbre, elle édore la pluie même,
une averse. Singulière profusion d'eau déplacée, comme ruisselante, coulée, dispersée. Chutant et sombrant, elle s'est vue gagner l'étang à patiner. Arbres, à leur côté, c'était à son plein la calme déploration, sans la pluie qui, à fleurir, mouillait le sol saturé.
Dors au soleil.
Singulière profusion d'eau déplacée. Chutant et sombrant. C'était à son plein la calme déploration, sans la pluie qui à fleurir mouillait le sol saturé d'or au soleil.
C'était Les Embrasseurs d'arbres de Dominique Méhens avec Anneke Brasinga, Jean-François Clémence et Dominique Mention. Poème d'Anneke Brasinga, musique de Francis Gorgé, à la technique Camille Méhens.